Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Folia League à 48e du nom et spécial débrief Iran-Espagne. Alors l'Espagne l'a emporté 1-0 au forceps, un match très compliqué face à un bloc bas. Et évidemment, nous faisons un petit débrief comme à la maison avec notre canarien de service, Gepintio.
Bonsoir.
Et attention, roulement de tambour, elle n'était pas venue là depuis plus de 6 mois pour nous parler disco. Et devinez de qui elle va nous parler ce soir. Tadadadada. Chloé Gérardin, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de sa cuisine.
Exactement.
On va commencer sans plus attendre. Une réaction sur ce match. Compliqué, j'ai.
Ouais, très compliqué. Notamment la première mi-temps où l'Iran jouait bloc bas à 11 derrière. Avec en plus dès qu'il récupérait le ballon une projection assez rapide vers l'avant qui ça y est ils ont marqué, c'est le plus dur, le plus dur est fait. Et puis ben on a tremblé jusqu'au bout. Donc oui, c'était un match très compliqué. On l'a bien négocié, l'Espagne l'a bien négocié, tant mieux.
Oui.
Ouais, ben, comme disais, c'était vraiment difficile. Déjà, toute la première mi-temps, il fallait vraiment patienter avec un bloc de l'Iran très, très bas. Et en effet, oui, le but n'a pas facilité les choses pour l'Espagne, puisque l'Iran s'est enfin mis à jouer au football. Et même, il méritait limite le match nul ce soir, vraiment.
Oui, il y a ce but hors-jeu qui juste est à 0-0. Non, il y a déjà un 0.
1-0.
Je pensais à la frappe, la frappe laser d'un joueur iranien ou De Gea, si c'est cadré, il peut aller chercher au fond des filets. Et après, il y a le but de Costa dans la foulée. Ce but refusé, alors, il y a hors-jeu, effectivement. Mais c'est vrai que dans l'absolu, l'Iran n'a pas démérité. L'Iran avait un plan de jeu très clair, il n'était pas inconnu d'ailleurs. C'était le coffre-fort. Sur les 19 derniers matchs, l'Iran avait rendu 15 clean sheets, donc on savait que ce serait compliqué, notamment le 1-0 contre l'Iran, donc c'était en pleine confiance. Carlos Queiroz a une nouvelle fois sorti ce bloc très bas en essayant de contrer, et ça a pas mal marché en fait, ça a failli, ils ont failli se qualifier directement dès le deuxième match.
Oui. Après, en plus, c'était compliqué parce que Diego Costa était vraiment tout seul. Et puis c'est le jeu de l'Espagne, c'était trop prévisible en fait. Donc heureusement qu'ils ont réussi à marquer, mais c'était vraiment dur.
Là, il y a eu un vrai problème. Oui, vas-y.
Oui, non, mais en fait, par rapport au style de l'Iran, ce soir, c'était un petit peu la Mourignette. La Mourignette, hein, pour ceux qui ont connu un petit peu son passage à l'Inter à l'époque, c'est 11 derrière, on met le bus.
Tu pars pour quelque chose, on va pas être d'accord.
Oui, enfin bon, enfin
si
voilà.
Si tu penses cette demi-retour là, non. Moi, je pense que le pire de Mourinho n'était pas ce match-là. Je pense que c'était au contraire un très bon truc tactique. On va pas revenir là-dessus sur ce match-là.
Non, mais c'était pour la blague. Hein.
Mais c'est vrai que quand on prend Mourinho des dernières années, effectivement, à Manchester par exemple, le match contre Séville notamment, si on convoque les matchs les plus récents, oui, t'as tout à fait raison. Sauf que c'est complètement assumé et que l'Iran a pas les moyens de Manchester United.
Tout à fait. Et pour revenir à ce que Chloé disait, au niveau du jeu très stéréotypé de l'Espagne, où en fait on faisait tourner le ballon de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, en espérant un décalage, et en fait ça se faisait souvent sur le côté droit avec un centre, et en fait on s'apercevait que les centres arrivaient toujours au 6 mètres, où il y avait Diego Costa donc tout seul, le seul Espagnol entouré de 6 Iraniens, donc et on a vu ça pendant 40 minutes, 45 minutes. Et là, moi devant mon écran, on devient fou parce qu'on se dit mais Hierro, il peut pas leur expliquer que il y a peut-être une autre façon de jouer face à une telle équipe. Et non, en fait, chaque action, c'était la même chose. On faisait tourner, bing, à droite, centre, et on se faisait donc. En fait, la défense a très bien tenu l'Iran. Et en fait, quand on regarde bien, même avec le but encaissé. Eh ben, ils ont été même très dangereux. Et on parle du but annulé, mais on peut parler aussi de la tête qui passe à 30 centimètres au-dessus des cages.
Ouais. Oh là, Gérard Piqué. Oh là 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 là.
Ouais. Piqué.
Oh là là, Gérard Piqué, il a failli redevenir espagnol deux fois en coupant des corners et trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, c'était Piqué le catalan, quoi. S'il y avait eu but, ça aurait fait la une de plein de canards en Espagne. On va revenir un peu sur le. sur la composition de départ de Hiro. Alors, ouais. Moi, j'étais en train d'écrire la prévia à ce moment-là. Et au moment où je la publie, je vois d'ailleurs un retweet de Chloé, où je vois la compo, le 4-2-3-1, et là, je comprends pas. Et je comprends pas parce que Coquet a été peut-être le meilleur joueur du match contre le Portugal avec Isco et Costa. Ouais. C'est les trois joueurs à sortir. Il le sort. Alors, il a peut-être moins de ballons techniques qu'un Iniesta, par exemple. Il met Vasquez, et Vasquez, il aligne. Alors, on sait qu'il y aurait des permutations, mais au départ, c'est côté gauche. C'est quand même, alors qu'on sait que c'est un bouffeur de craie côté droit. C'est un pur ailier. Et on pensait même qu'il était là pour compenser éventuellement une baisse physique de Carvajal qui revient de blessure. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi, j'ai pas bien compris pourquoi, d'un seul coup, il touche pas au 11 de Lopetegui, contre le Portugal. Et là, il bouscule avec un double pivot, avec Iniesta, et bon, on en parlera plus tard, mais bon, voilà, on va pas trop toucher aux idoles, mais ça a été très compliqué.
Non, ouais, non, mais surtout que là, on parle de dispositif tactique. Attends, Hiro, il sait très bien que l'Iran va défendre parce que c'est ce qu'ils ont fait contre le Maroc. Et là, il nous met Vasquez qui est à l'aise et sur des espaces, dans les espaces. On sait que là, il va y en avoir très peu. On a des joueurs sur le banc comme Asensio qui sont capables justement eux d'aller dans les petits espaces, de faire des petits dribbles, d'essayer de s'infiltrer dans la surface. Il reste sur le banc. Iniesta, on pensait pas qu'il allait faire ce match, mais il a été quand même très lent, assez cramé très vite. Et là, je pense que on parle du match de l'Espagne, mais je pense qu'il faudrait parler surtout de la composition d'Hierro qui a. Alors, je sais pas s'il a mal lu l'adversaire ou s'il a voulu faire plaisir à ses cadres, mais il y a quand même là des choses à redire là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Chloé, mais.
Non, je suis tout à fait d'accord, même si j'ai pas caché ma joie de voir Lucas Vasquez titulaire. C'est vrai que j'ai pas trop compris déjà parce que Coquet a fait un match énorme vendredi soir. Mmh. Et en plus, le positionner à gauche, alors qu'on sait très bien qu'avec Carvajal à droite, il s'éclate. Et j'ai pas non plus compris pourquoi Asensio était sur le banc et qu'il est rentré pour jouer 10 minutes alors que c'était vraiment le joueur, je pense, qui pouvait détonner un peu tout ça, quoi.
Tout à fait. Et Vasquez, je pense que c'est pas lui donner sa chance vraiment de le faire jouer là comme ça d'entrée, en plus pas à son poste. Et là où on sait qu'il va être entouré de 3 ou 4 Iraniens. Enfin, j'ai pas compris et je sais pas. Il va peut-être en parler en conférence de presse dire assez rapidement. Mais c'est vraiment des choix qui sont très bizarres.
Je suis d'accord. Oui.
D'ailleurs, j'ai un peu des échos d'Espagne que je reçois par WhatsApp. La grande passion espagnole, le WhatsApp. WhatsApp et Facebook, c'est magnifique. Ouais. Et donc, on me dit, les huitièmes de finale, si on prend l'Uruguay, on rentre à la maison très vite. Ça s'enflamme très vite après le Portugal. Ça s'enflamme toujours très vite dans un sens comme dans l'autre. En Espagne. Mais c'était un drôle de match parce qu'on savait très bien que ça allait jouer. À certains moments, c'était même du 6-4. Ouais, du 6-4 quasiment.
Oui.
Ouais.
Avec des lignes de entre 5 et 6 défenseurs. À la base, initialement, c'était un 4-1-4-1, mais bon, ça savait très bien que ça allait moduler. Le problème que j'ai avec la compo d'Hierro, c'est que comme tu disais, on savait comment ça allait se passer. Et tu commences le match avec un seul attaquant. Mm-hmm. Alors, certes, c'est Diego Costa qui peut te manger 3 mecs au petit-déj, on le sait. Mais le problème, c'était même pas tant qu'il y ait un seul attaquant de pointe pur neuf. C'est que le jeu, c'était de la baballe dans tout ce qu'il y a de pire. Que peut faire l'Espagne. Je me suis rappelé du match contre la Suisse. Tu en avais parlé lors du dernier podcast, il me semble. J'ai du manque d'espace qu'il y avait eu. Ou c'était avec Elias aussi, je crois. Où c'était très bien quadrillé. On savait comment ça allait se passer. Et finalement, en première mi-temps, il y avait très très peu de joueurs dans la surface. On va dire entre le point de penalty et la ligne de but. Les centres, c'était ni fait ni à faire. La connexion Iniesta, Alba, Isco, c'était vraiment plus lisible. C'était pas possible. Alors, Isco a sorti deux coups de génie, mais moi je trouve, alors on en parlera après et Chloé sera certainement pas d'accord, mais j'ai trouvé Isco par rapport au Partida sur qu'il avait sorti la dernière fois et là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le Isco qu'on attendait. C'est-à-dire que Isco, quand on l'attend, on l'attend peut-être beaucoup trop, et quand on se dit, on va voir ce qu'il va donner, et il sort des super matchs. Là, je trouve qu'il a beaucoup trop touché les ballons par rapport à ce qu'il pouvait apporter, et c'est pas uniquement de sa faute. C'est la faute du manque de mouvement de son équipe, le manque de jeu entre les lignes et, fatalement, de la compo là qu'on peut dire.
Ouais, et enfin, tu parles du match contre la Suisse. Ça me fait penser que, en fait, j'ai cru voir à peu près le même match. Parce qu'en plus, la Suisse avait très très bien ressorti le ballon, notamment en deuxième mi-temps, lors du match amical. Et en fait, l'Iran a fait la même chose. Alors je pense que Carlos Queiroz s'est un petit peu appuyé sur cette rencontre pour préparer ce match contre l'Espagne. Et ça s'est très bien vu. Parlant disco, alors moi je vais être un peu plus mesuré. Balle au pied, voilà, il sait ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est qu'autour de lui, il y avait très peu de mouvements vers l'avant. Si on regarde bien, c'était que des mouvements sur les latéraux, ce qui fait qu'en fait, il a joué un peu comme à la manière d'un handballeur, hein, c'est-à-dire je prends la balle, je la fais circuler à droite, je la fais circuler à gauche. Et le problème, c'est que devant lui, il y avait quoi? Il y avait Diego Costa qui était assez immobile en fait, si on regarde bien dans la surface, et il avait très très peu de solutions offensives. On va dire. Et
Ah ouais.
oui,
Vas-y,
vas-y.
vas-y. Non, vas-y.
Oui, non, mais ce qui est dommage, c'est que en fait, si on avait eu un peut-être Moreno ou un Aspas qui rentre un peu plus rapidement dans la partie, il aurait pu avoir quelqu'un, donc Diego Costa qui tourne autour de lui et donc avoir un peu plus d'espace. Et donc, je pense que Isco aurait pu aussi donc faire jouer son rôle de métronome en fait, hein, de chef d'orchestre, celui qui sait passer la balle entre deux défenseurs. Et là, il pouvait pas. C'était impossible.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Isco, tout le monde le sait, balle au pied, il est merveilleux, il est formidable.
Bayat
Mais
Choupin ce soir. Hein.
si autour de lui, il n'y a pas personne lui apporte des solutions offensives, et c'est pour ça qu'à la mi-temps, moi, je réclamais de voir Aspas pour épauler Costa et pour proposer plus de choses devant, parce que là, à part distiller des ballons et essayer de centrer, qui est tout seul, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que
Non,
tu veux
c'est
qu'il fasse?
le problème que j'ai eu avec Isco, c'est que c'est souvent le reproche que je lui fais, c'est que à un moment, je crois en deuxième mi-temps, il sort deux débordements, alors il est sur son pied gauche aussi, mais il peut lâcher le ballon plus vite et il fait le contrôle en plus, et fatalement quand tu fais ton contrôle en plus, ta défense elle a le temps de revenir aussi. Donc ça c'est toujours un petit peu c'est un peu toujours le même défaut. Mais effectivement, moi j'ai l'impression qu'ils sont vraiment un peu trop reposés sur Isco, en se disant ouais il est très fort en ce moment, il est en
Il est en
confiance.
feu,
Finalement,
il va faire la diff. Il va
ouais,
faire la diff, il est
ils
en
sont
feu.
vraiment sur lui. Et tu prends même David Silva, alors que j'adore, mais je trouve pas terrible
Non.
depuis le début de la compète. Il est encore là, il est aligné là. Moi, évidemment, je regardais Coquet, évidemment, parce que Coquet a été un peu. Déjà, je regardais la compo de base, hein, 4-3-3. Mais à la mi-temps, déjà, Hierro aurait dû faire rentrer un deuxième attaquant, Rodrigo ou Aspas. Personnellement, je refais rentrer Aspas parce qu'il a l'instinct du buteur qui me semble supérieur à celui de Rodrigo Moreno, qui est plus joueur, on va dire, plus technique et qui a plus de ballon. T'es pas de son prêtre.
Non,
Non, voilà. Et donc, ça manquait de présence. Et on sait que il y a Aspas, Iago Aspas est capable de sortir de dribbler sur un côté, de rentrer et de marquer. Ça aurait amené plus de protagonisme dans la surface, ça aurait été plus intelligent. D'autant qu'on savait très bien que l'Iran, à part deux, trois occasions, voire sur un coup de pied arrêté, ils n'allaient jamais attaquer. Donc autant laisser Busquets tout seul devant la défense avec Ramos, Piqué, éventuellement Carvajal, Alba, en faisant des dépassements de fonction, plutôt que de s'embêter à garder absolument coûte que coûte autant de milieu.
Ouais.
Non, mais
Façon.
c'est ça le problème, c'est qu'ils ont beaucoup trop tardé. Et si Isco il avait eu un Aspas ou un Asensio à ses côtés, parce que Silva, comme tu l'as dit, il est moins bien, et Dieu me pardonne de dire ça, mais Iniesta, il est complètement cramé, ça aurait aussi changé quand même la physionomie du match.
Ouais,
Ouais,
Iniesta,
surtout.
il a ce petit geste, cette petite semelle. Qui met pour centrer. À un moment, il y a Isco qui lui donne un super ballon en deuxième mi-temps, et lui, il a ce... et on se dit que ah, s'il avait 2 ans de moins, celle-là, elle aurait pu finir en but, quoi. La passe aurait fini en but. Mais je pense aussi que la compo, le système comme ça, ne lui convient absolument pas. Déjà parce qu'en club, ils ont joué en 4-4-2 le Barça cette année, mais il est quand même beaucoup plus habitué à un 4-3-3. Ça avait pas mal tenu la route contre le Portugal, finalement. Puis c'était pas un match pour lui non plus, quoi. Au final. Autant, moi je regardais les trentenaires un peu au frais.
Ouais,
Lui et Silva.
c'est
Parler
ce
de
que
la
j'allais
vue. Ouais, vas-y, vas-y.
dire en fait, hein, mais dans un match comme ça, il faut de la folie. C'est-à-dire que on sait que derrière, de toute façon, les Iraniens vont être solidaires, ils vont serrer les coudes jusque voilà dans leur défense. Il fallait de la folie, il fallait du Asensio, il fallait du Aspas ou du Rodrigo vraiment pour essayer de dynamiter tout ça. Après, tu les fais rentrer, tu mènes 2-0, tu dis tiens maintenant on peut faire tourner. Et donc là, Iniesta il est important. Silva, voilà, il a l'expérience, il est important aussi dans ces moments-là. Mais pas au début de match. Au début de match, il faut de la folie.
Après, moi, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que là, on savait que ça allait se jouer au milieu du terrain, comme souvent avec l'Espagne. J'ai trouvé que la performance globalement ratée de l'Espagne avait des conséquences sur le match assez catastrophique de la défense. Piqué, déjà, il fait une erreur énorme contre le Portugal avec Ronaldo qui lui met la misère sur le coup franc, enfin, sur la faute qui amène le coup franc. Là, il est pas loin de te coûter hein, l'égalisation. Alba ultra prévisible, j'ai trouvé assez sans jus, pas capable de déborder. Carvajal, alors évidemment Carvajal, j'aime beaucoup son rôle défensif, donc il y a quand même Carvajal et Ramos globalement, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher.
Non,
Ouais, puis surtout.
ils ont fait un bon match quand même.
Ouais, surtout Carvajal revient en plus de blessures, hein. Il a pas joué depuis quelques temps, donc voilà, c'était un match pour lui de remise un petit peu dans le bain et à niveau. Ramos, impeccable. Par contre, on n'en parle pas, mais Derrea, il a fait aucune intervention
J'allais t'en parler.
et même sur là au moment où on voit que il n'intervient pas et on sent qu'il est dans les choux. Hein. On voit un moment sur la tête, je crois qu'il y a le caméraman qui le filme. Il y a les yeux hagards. On a l'impression qu'il n'est pas là.
Ouais.
Et
Il est
ouais, non, il
perdu.
fait peur. Il fait
Il est perdu.
peur. Ouais.
T'as raison, il est perdu alors que Hierro et ses coéquipiers ont soutenu Derrea en disant que c'était le gardien titulaire de l'Espagne qui n'avait pas à discuter. Même en Espagne, il y a quasiment 50% des supporters qui réclamaient Kepa Arrizabalaga. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça serait passé avec Casillas, quelque chose comme ça. Même Casillas de 2014. À savoir que tout de suite le remettre en question. Parce que vraiment, ça. Moi, je pense qu'il y a quand même des deux buts qui sont pour lui contre le Portugal. Et là, aujourd'hui, il n'est pas là, quoi. T'as raison. Il est absent, il hésite à sortir, on sent vraiment sur la retenue. Alors heureusement qu'il y a hors-jeu sur l'égalisation, parce que sinon, ça aurait été très compliqué jusqu'au match contre le Maroc. Ça aurait vraiment été très compliqué, parce qu'on attend d'un gardien de but de sa trempe, de sauver la boutique quand il y a quelque chose qui marche pas. Là, à l'heure actuelle, ça n'a pas été trop le cas. On va aborder la dernière partie de ce podcast. On va faire juste une petite demi-heure, on va pas s'éterniser sur ce match-là, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer. On savait comment ça
Non.
allait se passer, on espérait que, justement, Navid, Barcelonista Fra, qui était avec nous lundi pour le podcast, on avait fait un petit pronostic. Avec Gio, on avait dit 3 buts d'écart, lui avait dit 1-0 ou 1 partout, ce serait génial, 1-0 ou 2-1 pour l'Espagne, plus raisonnablement. Et c'est lui qui avait raison, donc rendons-lui hommage.
Bravo.
Il n'a pas pu être là ce soir, malheureusement. Mais voilà, il faut. Voilà. Et nous, on s'est planté. Mais en fait, non, mais j'ai envie de dire qu'on s'est planté parce que moi, je m'attendais vraiment à un jeu beaucoup plus direct et pas à ce enchaînement de choses latérales. Hierro n'a pas beaucoup d'expérience comme entraîneur. Il a juste une expérience d'une saison à Oviedo. La plupart du temps, directeur sportif. Il a été à Malaga, il est avec la. Bon. J'ai l'impression qu'il a été vraiment sur la réserve, qu'il a eu la trouille parce que dès la mi-temps, il doit sortir Iniesta. Ou au
Ah
moins.
oui,
Ou au
clairement.
moins. Un milieu de terrain, que ce soit Iniesta ou quelqu'un d'autre, ou Silva. Il se que je l'aurais gardé quand même. Parce que bon, Silva, il avait des bonnes stats. C'est marrant parce que quand on voit les stats en début de match en anglais, quand on regarde la télé, marqué oui, il a provoqué 3 chances de but. Ouais, c'est bien
Ouais,
gentil.
j'ai vu,
Ouais,
ouais.
bon, ça dépend aussi comment ça veut rien dire. Mais Iniesta et Silva auraient dû être sortis tout de suite, tout de suite. Et après, il a attendu la 65e minute pour sortir Iniesta, qui était vraiment bouilli. Et vraiment, ce n'est pas du rendre service, parce que Iniesta va nous servir, va nous servir, pardon, va servir à l'Espagne, syndrome de Stockholm, va servir plus tard dans la compétition, et surtout à partir des 8e, parce qu'il a cette science du placement et du ballon qui sera beaucoup plus importante que dans un match contre un bloc bas comme celui de l'Iran. Il remplace par Coquet. Alors, Coquet, ça aussi, poste pour poste.
Ouais.
Ensuite, il fait rentrer Asensio. Et là, ce qui m'a rendu fou, c'est que Coquet était à gauche et Asensio à droite. Alors que leur poste, c'est exactement l'inverse. Mmh. Et Asensio, alors ça m'a rendu dingue. Et Asensio, alors Patrice Ferry sur Bein Sport, oh, il est un peu nonchalant et tout ça. Bon. Il y avait des actions.
Ah, il a joué 10 minutes.
Non, mais là, il y avait des passes de Chino Silva. C'était un scandale. Il a mis la balle derrière. Bon. C'est plus un ailier sur son pied que rentrer sur, qu'à droite et rentrer pour frapper. Donc, je ne sais pas s'il a pensé à un jeu plus direct pour Asensio rentre et frappe. Mais Coquet a été exceptionnel sur son côté droit contre le Portugal. Je me demande, alors là, ça se cumule avec Vasquez. Soit il confond sa droite et sa gauche, ce qui peut arriver. Moi, ça m'arrive régulièrement. Confond sa droite et sa gauche, c'est le phénomène Manuel Valls. Bref, parenthèse fermée. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais je l'ai trouvé très flore, comme on dit. Vraiment.
Ouais,
et... avec la trouille de. Et à la fin, il sort Costa pour Rodrigo Moreno parce que Costa, il est complètement brûlé. Il n'en peut plus, il a trop couru.
Mais moi, je me pose une question. On a quand même un staff technique en Espagne.
Enfin, oui, mais c'est Albert Celades. Bon.
Oui, non, mais tu attends, ils préparent les matchs, ils ne sont pas que deux. Hein,
Oui, évidemment, mais c'est ça qui était étrange. Mais en fait, je me demande si ça manque pas d'expérience. Alors, Albert Celades est l'entraîneur de la Rita, mais bon, je le trouve assez limité tactiquement, en tout cas sur ce qu'il a montré l'année dernière à l'Euro. Contre l'Allemagne en finale. Ça jouait beaucoup, je trouvais, sur le potentiel des joueurs, ce qui peut encore se faire en moins de 21. Et là, Calera, l'entraîneur qui va signer Alcorcón, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est. Qui a entraîné cette année Navalcarnero, qui est en 3e division. Est-ce que c'est un peu light au final pour. Même si je ne pense pas que Lopetegui soit non plus un cadre.
Non, mais on voit qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire que on fait jouer des joueurs pas vraiment à leur poste. On fait confiance à des gens par expérience parce qu'on se dit bon, voilà. Et on n'ose pas prendre de risques. En fait, oui, c'est un peu un coaching de la trouille. Et j'ai bien peur que ça commence à se voir au fur et à mesure de la compète. Et que certaines équipes vont bien comprendre que Hierro, il a aussi ses limites. Et ouais, j'espère qu'il va y avoir peut-être quelques coups de fil avec l'Espagne pour peut-être on le remette un petit peu en place et qu'on lui réexplique un petit peu comment on peut disposer certains joueurs dans l'équipe. Moi, j'espère, parce que sinon ça craint, je l'annonce.
Ah oui, surtout que moi j'espère surtout que Hierro va pas desservir à l'Espagne, parce que quand tu vois l'équipe, le banc, il y a moyen de faire quelque chose de très grand. Et là, ce qu'il fait ce soir, faut vraiment se poser des questions et j'espère qu'il se les posera, parce qu'il ne faut pas avoir peur de. Même si Iniesta, c'est un monument du football espagnol, il est cramé, tu le sors à la mi-temps. À un moment donné, tu ne gagnes pas des matchs ou tu ne gagnes pas un mondial si tu ne prends pas des risques et si tu n'oses pas. Faire du mal, froisser les stars de ton équipe s'ils sont pas bons.
C'est dur de froisser les égos des gens.
Tu peux pas gagner une Coupe du Monde en restant sur tes acquis, en laissant les joueurs alors qu'ils doivent être sur le banc et en laissant des joueurs comme Asensio ou Aspas qui peuvent changer la donne du match. En les faisant entrer 10 minutes, un quart d'heure lors des matchs. Ils vont pas aller loin comme ça. Ça, c'est clair et net.
Moi, je pense qu'en plus, Iniesta, ça l'aurait pas froissé de pas jouer.
Non, moi je l'aurais même pas fait jouer. Pourtant, ouais, je sais que Iniesta, pour moi, c'est un dieu du football, mais je l'aurais pas fait jouer.
Mais il est au courant, Iniesta. C'est pour ça qu'il continue pas au Barça, d'ailleurs. Il est complètement au courant de.
Mais bien sûr, et je pense que ça l'aurait même pas froissé parce que lui-même, il est conscient qu'il est plus au top. Et je pense qu'au contraire, il a juste envie d'apporter le meilleur de lui-même à son équipe. Et si c'est en n'étant pas titulaire sur tous les matchs ou en rentrant 20-25 minutes, je pense qu'au contraire, il ne rechignerait pas parce que le plus important pour lui, c'est la sélection et d'aller loin.
On va terminer sur un joueur en particulier. On en a brièvement parlé tout à l'heure. C'est David Silva, tireur attitré des pénaltys. Avec l'Espagne, il est même passé devant Sergio Ramos pour ça.
Ouais.
Compétition bizarre quand même. Alors je sais pas si c'est le manque de compétition.
Mais ça, c'était un choix de Lopetegui.
Oui, bien sûr. Mais après, il y a le choix de Lopetegui en début de compète.
Oui,
Lopetegui qui est
est-ce
là
qu'ils vont
et
le
là.
suivre ou pas?
Ah, et là, le problème, c'est que je ne trouve pas du tout tranchant, en fait.
Non.
Déjà,
Non,
t'en as pensé quoi de son match? Moi, je me pose des questions sur sa complémentarité avec Isco, notamment. Ça avait été pas trop mal contre le Portugal, mais là, ouais, comme tu l'as dit, ça manquait de vitesse, quoi. Les deux joueurs sont plus des joueurs d'intérieur que des ailiers, quoi.
Ouais, surtout qu'en fait, on a, si tu regardes bien sur le milieu offensif, on a à peu près les mêmes profils. On a du Iniesta, Isco, Silva. Ça joue bien la balle, ça sait faire des passes. Des passes dans les pieds. Le problème, c'est que ça manque de vitesse. Alors Isco au centre, c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. C'est plus voilà la vision du jeu. Mais sur les côtés, offensivement, on attend quand même une sorte de percussion. Et là, c'est on l'a pas. Et c'est ce qui peut voilà. Je pense que Hierro ce soir va tirer des enseignements. S'il en tire pas, il faut enfin qu'il s'inquiète pas. Je vais lui réécrire un mémo. Hein, dans Furia Liga, pour qu'ils puissent peut-être s'adapter. Mais non, non, il y a des enseignements à tirer. Là, il y a quand même des jeunes comme Chloé dit, Asensio, on a du Vasquez quand on le met à sa place, et, qui sont capables de faire bien mieux. Donc ouais, j'espère qu'on sur le troisième match qu'il y a un peu le match pour rien, bon, peut-être pour encore la première place, on va dire, mais il faut les faire jouer là, voir un peu ce que ça donne face à un Maroc qui est éliminé. Et qui va jouer pour l'honneur. Donc il faut vraiment tester. Faut vraiment tester.
Oui.
Ouais, je suis à 100% d'accord. Comme disait G, ce Iniesta, Isco, Silva, c'est quand même le même type de jeu, quoi. Donc il faut apporter autre chose. Et clairement, Lucas Vasquez, tu le mets sur son côté droit, tu le fais rentrer 20-25 minutes, il peut te détonner une défense. Asensio, pareil. Asensio, j'aimerais le voir titulaire, vraiment. Et il faut changer des choses, faut tirer des enseignements, et j'espère vraiment qu'il va le faire. Parce que sinon, oui, on va passer pour les huitièmes, mais après, derrière, ça va être plus compliqué si on continue avec ce même schéma.
Surtout que pour preuve, je sais pas, dans le passé, quand on voit le match contre la Suisse, hein, je reviens sur cette performance, mais quand Vasquez et Asensio ont joué ensemble, on voyait bien que ça perforait dans tous les sens. Là, le Maroc, autre configuration, parce que là, on va avoir du. Alors, je sais pas si ça va être du 60-40 ou du 50-50 au niveau possession de balle, mais là, on va jouer une équipe qui aime avoir le ballon. Donc, ça serait très intéressant aussi de voir cette configuration, parce que après, si on joue l'Uruguay, bon, l'Uruguay, c'est pas une équipe à possession, donc ça va permettre aussi de s'étalonner face à d'autres adversaires beaucoup plus techniques et qui aiment avoir le ballon dans les pieds, quoi.
Un petit tour sur le chat. Darkowski, si je prononce bien son nom, qui me fasse l'amitié de ne pas m'en vouloir pour la prononciation. Donc, à considérer que c'est un match faible, mais victoire importante. La rentrée d'Asensio ne l'a pas beaucoup plu. Et bon, De Gea, évidemment, n'est évidemment pas le même à Manchester qu'à sélection.
Oui.
Peut-être plus de pression, évidemment. Ça, Chloé, ça va pas te plaire, mais il dit aussi, faut pas prendre Isco pour Messi. Et là, ouais,
C'est
alors,
pas pareil.
j'ai jamais pris Isco pour Messi. Hein. C'est
Non,
pas le même joueur.
c'est pas le même profil,
Et
pas du tout.
Loïc, qui a un pseudo beaucoup plus lisible que son collègue. Oui, on n'en a pas parlé, mais Busquets, petit match. Et j'ai trouvé aussi, moi. J'ai trouvé compliqué. Il a mis une bonne frappe, hein, qui a failli finir au fond.
Ouais,
Mais
ce qui
j'ai trouvé, ouais, je ne l'ai pas trouvé très précis et très, très pas bien dans ce match.
Tu vois, là, Busquets, on l'attendait notamment aux 30-35 mètres, parce qu'on a fait tourner le ballon un petit peu partout, autour de la défense iranienne. Et il y a des moments, les ballons revenaient aux 30 mètres. Et là, je me suis dit, Busquets, il va m'en mettre une bonne petite patate en lucarne. Et non, pas tant que ça, en fait. Et ils ont très peu tenté de loin, alors qu'on a quand même des joueurs qui ont des belles frappes. Et non. On repartait sur à gauche, on repartait à droite et prenait des mauvaises décisions. Donc c'est vrai que, alors Busquets, je sais pas, il aurait peut-être pu prendre le match à son compte et il s'est laissé un petit peu porter, un peu comme presque toute l'équipe. Hein. À part Isco qui a essayé, hein, parce que même si c'est pas Messi comme on le dit, mais il a essayé.
Clairement, clairement, il se comporte en patron ce soir.
Voilà, au moins il y a eu un patron. Et enfin, je suis désolé, on pense plus à Busquets, on pense plus à Ramos quand on parle de patron, hein, voire Iniesta. Et là, c'était pas le cas. Donc
Ramos a été en défense, j'ai trouvé. Il était quand même
oui,
pas
non,
sur
mais
le terrain.
oui,
Il a
bien sûr.
fait. Oui, et Foudingue est avec nous, un habitué du podcast.
Oui,
Donc
un fidèle.
on te salue, cher fidèle. Oui, il dit quelque chose de très vrai. Le manque de contrôle du match après avoir ouvert le score, c'est
Oui.
inquiétant parce qu'il y a eu ce but refusé. Puis derrière, il y a eu des comptes, il y a même plus de possibilités pour l'Iran que pour l'Espagne. Est-ce que aussi, quand tu es dans un match avec un bloc aussi bas, aussi défensif, oui, ils explosent, ils jouent vraiment leur coup à fond. Tu es dans une sorte de torpeur et de faux rythme. Et dès que
C'est
ça
ça.
commence à accélérer, tu te retrouves un peu à court de jus parce que, ah ouais, il faut redescendre, il faut. Ouais, t'es pas habitué. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que il y avait un peu cette différence de vitesse et de force et de peps en fait pour faire les efforts.
Ouais, et un truc qui m'a épaté, c'est parce que quand on regarde la première mi-temps, on voit les Iraniens, ils sont au bout du rouleau. Ils ont mal, il y en a certains, ils sont prêts à avoir des crampes, blessures musculaires. Je me suis dit, bon, à la mi-temps, de toute façon, c'est plié parce que l'Espagne va physiquement, il est au-dessus. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que l'Espagne domine et que voilà, physiquement, on soit plus frais. Et en fait, ça s'est pas du tout montré. Et quand on voit en fait les Iraniens qui attaquaient dans tous les sens, alors je sais pas si c'est l'énergie de se dire bon, on n'est pas loin d'un truc historique et donc ils ont tout donné et peut-être qu'ils vont le payer d'ailleurs dans le troisième match. Mais ouais, sur ce match, ben la fraîcheur, elle n'était pas chez nous.
Ouais, et d'ailleurs, pour la compo du prochain match contre le Maroc, Loïc me demande si tu verrais Saoul titulaire.
Bah, oui, pourquoi pas? Parce que ça, après, dans un match aussi, on va dire à possession, il va falloir aussi, au niveau milieu de terrain, peut-être être un peu plus costaud. Donc, pourquoi pas Thiago aussi?
T'as quoi le Alcantara, Chloé, c'est peut-être une solution contre le
Alors,
Maroc.
j'ai eu un petit problème technique,
Oui, j'ai
j'ai
vu ça.
quitté donc. oui. Qu'est-ce que vous disiez? Je suis désolée.
Non, parce que Loïc me demandait si on verrait bien Saoul titulaire au prochain match. Alors, on ne serait pas contre, mais moi je pense que c'est hautement hypothétique. Mais Thiago Alcantara, ça pourrait être une solution. Face, comme tu l'as dit, j'ai une équipe marocaine qui est beaucoup plus joueuse, qui laissera beaucoup plus d'espace aussi.
Ouais, je pense que Thiago, il aurait été bien ce soir.
Dans quel registre?
Là, après le but où
Ah
l'Espagne
oui.
a quand même pris l'eau, je pense qu'il aurait fait pas de mal à l'équipe pour quand même regagner la possession. Parce que, enfin, non, pas la possession, mais c'était vraiment compliqué. Et je pense que l'Iran méritait de marquer. Et au milieu de terrain, ça se voyait que c'était pas très serein, quoi.
Tu vois, voilà, apporter de la sérénité, c'est ce que tu voulais.
Oui, désolé, je.
Oui, non, mais c'est bien, je l'ai compris.
Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, il faudrait qu'on fasse parce que ça, je pense, être une des clés de la suite du parcours de l'Arlor. C'est des coups de pied arrêtés qui ont été. Il y a eu une seule occasion avec le corner de Discoul le long de la ligne avec la remise d'Iniesta qui a fini sur la frappe de Ramos, arrêté plus ou moins par le dos et la main d'un défenseur iranien pour
Ouais.
compliquer. Hormis ça, il y a deux coups francs de Isco qui sont extrêmement mal tirés. Il veut tirer directement alors qu'il est droitier, c'est plus un coup franc pour un gaucher pour taper direct ou un droitier pour chercher la tête de Ramos Piqué. Les combinaisons ont été catastrophiques pendant tout le match. Et justement, c'est le genre de phase qu'il faut absolument travailler contre des équipes qui vont rien te laisser. C'est justement dans ta supériorité physique, de tes défenseurs, de tes attaquants qui mesurent plus d'1,90 m que tu peux trouver la faille. Et là, finalement.
Ouais, mais là, FM, tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose qui est naturel.
Mais je mets pas que le doigt, sachez-le.
Non, c'est ça.
Pas tout de suite.
Ce que je veux dire, c'est que on a Lopetegui qui a sûrement dû travailler ça il y a quelques semaines et quelques mois déjà. Et on récupère donc Hierro qui n'a pas du tout pris l'équipe en main. Et je pense que ça, c'est pas sa priorité, c'est pas les coups de pied arrêtés. Et je pense que là-dessus, il y a un gros gros manque, notamment. Alors, j'ai pas vu des entraînements de l'Aurora en Russie, mais je pense que là, il y a pas eu cet aspect de travailler, notamment assez bien du moins, parce que quand on voit lors de ce match, c'est vraiment faible. Très peu d'apports, très peu de danger, et c'est pas normal
C'est
pour une équipe
récurrent,
avec.
c'est récurrent, cela dit, avec l'Espagne, depuis plusieurs
Ouais,
saisons.
mais là, ce soir, quand même, c'était, enfin, ils étaient tous inutiles, quoi.
Ah,
S'il
moi,
n'y
ce
avait
qui
pas
m'en...
eu de coup de pied arrêté, ça aurait été pareil.
On
Moi,
a
ce
quand
qui m'en...
même Ramos qui, enfin, je vais dire, s'il y a bien un joueur dangereux sur des coups de pied arrêtés, c'est lui, du niveau de la tête. Hein.
Ah, mais moi,
Ah,
de toute
mais
façon, il y a un
ça.
truc qui m'a rendu fou, c'est la position de Isco au moment où t'avais le coup franc. Il n'est pas du tout en position de frapper direct. Il est un peu de trois quarts, enfin, je sais pas. Il a un positionnement où tu dis, il va centrer, en fait, il va pas frapper directement. Il n'est pas bien placé, ça se voit tout de suite, vraiment tout de suite. Moi, je pensais même que c'était un leurre pour que Silva puisse taper. Vraiment, c'était. Je comprends pas comment les deux se sont organisés, en fait. Je sais pas, c'est un peu au pifomètre, je sais pas, ils ont fait chifoumi, je sais pas, ils ont. Sérieusement, Isco n'était pas en position de frapper, vraiment. Je sais pas. Voilà, c'est très. Et là, c'est plus même que des combinaisons, c'est quand même la faute des tireurs. D'ailleurs, les coups francs, les deux, ils ont quand même suffisamment joué au foot, ils ont suffisamment de ballons
Tout à fait.
pour lever un ballon, quand même. Je veux dire,
Ouais.
Isco, au moins, il balance un ballon à 50 cm, quoi. C'est pas possible. Sur cette phase-là, tu dois te concentrer plus que jamais, quoi. Bon. J'espère que c'était juste un épiphénomène et que contre, je pense que c'est la seule fois où l'Espagne jouera un bloc aussi bas. Puis bon, il fallait absolument gagner. Il y a ce but de Diego Costa qui est redevenu espagnol depuis une semaine.
Enfin,
Depuis une
ce
semaine,
but de Diego
il a plus de
Costa,
problème.
ouais,
Plus de problème. Ils vont lui trouver un bled de naissance en Espagne, tu vois.
bon.
Non, mais lui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais énorme coup de chance, énorme coup de chance. Parce qu'il a rien touché, il n'a pas touché un caramel du
Non,
tout.
pas du tout.
Il n'a pas touché une canette, le pauvre. Il a couru comme un dingue. Je trouvais qu'il avait beaucoup participé au jeu en plus.
Eh, dis, tiens, je pense à ça. Ce soir, ton pote, il a pas dû boire beaucoup de Chupito, hein.
Oui, Eduardo Estève. Pour ceux qui étaient là lundi, c'est une blague d'un journaliste espagnol qui s'appelle Eduardo Estève, qui est à Valence, et qui disait qu'à chaque fois qu'il entendait les commentateurs de la télévision publique parler de Morata, il buvait un shot. Parce
Ah
que
ben là
c'était.
oui.
Morata aurait été meilleur, Morata, Morata, Morata.
Ah
Et
mais
pendant
là
le point de presse
c'est.
en Espagne, c'était Morata, Morata, Morata. Ça n'a pas arrêté. Moi, je pense que Diego Costa est 10 fois meilleur que Morata. Il n'y a même pas à discuter.
Oh
Mais
bien
ça,
sûr.
s'il n'avait pas marqué,
Oui.
on serait retombé dans un truc. Est-ce que Morata, à la place de Costa, n'aurait pas été meilleur?
Bon voilà, oui. Bon.
Là,
Non, il aurait rien fait.
il
Il n'y
aurait
a
rien
pas de
touché.
débat là. Il n'y a pas de débat.
Ouais. Un petit deux pronostics. Match contre le Maroc, qui vous voyez? Est-ce que
Victoire.
l'Espagne va
Oui.
gagner ou est-ce qu'elle va se rapprocher?
Victoire.
Victoire.
Alors, pourquoi je pose la question? Parce que le groupe A va jouer avant. Ils vont jouer à 16h pendant que le groupe de l'Espagne va jouer à 20h. Deux matchs en simultané. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'en fonction du résultat, il ne vaut pas mieux chercher à être deuxième si la Russie termine première? Plutôt que. Alors, apparemment, la Russie, on va pas porter préjudice, on va pas. Mais j'ai l'impression que Gusidink a laissé un peu du surplus de l'armée niveau pharmacie. Voilà. C'est que là, pour l'instant, l'équipe qui a le plus couru lors du premier match des 32 équipes, c'est la Russie. Et hier, ils étaient déjà au même niveau que ce qu'ils avaient couru au premier match.
Mais alors je dis ça au
Ça
passage, j'ai
rappelle la
vu
Corée du Sud en 2002, tout ça.
ouais, j'ai vu passer d'ailleurs une info comme quoi certains joueurs russes ne seraient pas allés au contrôle ou une histoire de dopage, enfin du moins d'antidopage et ouais, donc la FIFA devrait ouvrir une enquête d'ailleurs, si j'ai
J'ai envie de citer Dame Céline dans Kaamelott. Ben voyons, mon colon.
Merci beaucoup. La prochaine fois, tu t'abstiendras.
Quoi, non, 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 tu touches pas. Non, pour moi, Kaamelott, c'est toi pour Isco. À peu près. Non, mais, non, mais c'est vrai que ça rappelle étrangement 2002 la Corée du Sud, ça rappelle étrangement 2008 l'Euro de la Russie.
Après, tu dis oui, il vaut mieux avoir la Russie. Franchement, c'est pas un cadeau quand tu sais que tu joues contre le pays hôte.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, tant qu'à faire, on finit premier, l'Aurora finit premier, il prend le deuxième et puis point. Et après, de toute façon, il faudra affronter quoi qu'il arrive des équipes qui sont du même niveau, voire peut-être des fois peut-être meilleures, et pour gagner. Hein. Donc oui, on ne devient pas champion du monde en battant que des équipes de district. Donc non, 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 il faut à un moment, il faut aussi se confronter à l'Uruguay qui n'est pas non plus.
Oui, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'était quand même. C'était aujourd'hui en termes de football.
Ah, c'était pas
Oh là
bon.
là, mais quelle catastrophe entre le Portugal qui a fait n'importe quoi contre le Maroc. Alors le Maroc qui doit faire encore plein de trucs.
Des pauvres.
Ah ouais, qui doivent gagner. Enfin, bon,
Franchement,
c'est
ouais.
vraiment terrible pour eux, mais il leur a vraiment manqué un œuf de très haut niveau.
Ouais.
L'Uruguay contre l'Arabie Saoudite. Je regarde les matchs avec mon frère pour l'anecdote. Et mon frère fait, ouais, j'ai mis 3-0 pour l'Uruguay. J'ai mis, t'aurais dû mettre 8. Ils vont les exploser, vu ce qu'ils ont fait contre la Russie. Ils en prennent 5. Ils vont les tuer, vraiment. 1-0. But pourri en plus. Oh là là.
Mmh.
Ils sont vraiment au service minimum. Ça peut leur coûter cher à l'Uruguay parce qu'ils ont une bonne tête pour aller en demi-finale. Mais ouais, c'est
Mais tu sais,
vraiment.
après, tu parlais aussi de oui, on sait les résultats à l'avance des matchs, et là, l'Espagne savait aussi, en fonction du résultat de Portugal-Maroc, qu'en gagnant ce soir contre l'Iran, ils étaient qualifiés. Enfin, on se doutait bien qu'ils allaient se qualifier, mais ça a peut-être joué aussi. Cette histoire de fait de se dire bon bah si on gagne 1-0 de toute façon on est qualifié quoi qu'il arrive.
Oui, d'ailleurs, la très bonne nouvelle pour l'Espagne aussi, c'est que le Portugal, l'Iran vont vraiment beaucoup jouer. Vont devoir, eux, ils jouent leur qualif.
Ouais.
L'Espagne, ils pourront ainsi dire qualifiés.
Voilà.
Donc,
Ah oui, elle est qualifiée, hein.
elle est qualifiée. Donc, oui, bien sûr. Et pourquoi je dis pour ainsi dire? Oui, exactement, elle est qualifiée.
Oui.
Donc, déjà, ça fait que tu peux faire tourner ton équipe.
C'est ça.
Tu peux faire des choses plus audacieuses. Voilà. Et peut-être que ça va calmer Hierro aussi. Dire, bah, Hierro, il avait quand même une super pression. Parce que ça lui est tombé dessus un peu par hasard. Ça fait des années qu'il n'a pas coaché. Il se retrouve avec que des cadors. T'as fait quoi, toi? Moi, j'ai gagné le championnat. Moi, j'ai gagné la Ligue des Champions. Moi, troisième fois consécutive. Toi, t'es qui? Ah, moi, je suis le Brossola. Non, mais voilà. Mais il se retrouve avec ce qui se fait de mieux au monde. Et je pense qu'il a vraiment fait du poste pour poste, qui s'est un peu déballonné parce que, ouais, l'important, c'était les 3 points. Il fallait vraiment, vraiment aller chercher. Être tranquille et qu'au pays ça se calme au moins l'espace de quelques jours avant de jouer le Maroc et que peut-être que là maintenant les joueurs vont être plus libérés, le staff aussi, Rubiales aussi, que la presse va peut-être un petit peu se calmer par rapport au départ de Lopetegui. Voilà, donc c'est vraiment l'essentiel, c'était vraiment de gagner. Maintenant,
Ouais.
quand on voit le but, quand on se dit qu'ils ont vu que le Portugal a fait qu'un 0, un petit 2-0, ça aurait pas été du luxe pour avoir au moins les goals average sûr et certain. Bon, voilà. Donc ça c'est juste le petit mode de ce match-là. Et pour revenir sur ce qu'on dit Foudingue et Loïc sur le chat, Foudingue qui dit qu'il aimerait bien voir la gueule du mec quand il va annoncer à Poutine que son équipe est suspendue pour dopage. Ils vont envoyer un robot en fait parce que ils ont trop peur de la réaction et qu'ils tuent directement le mec à main nue. C'est un mec qui combat des ours encore. Hein, voilà. Mais non, c'est vrai que c'est quand même très troublant ce qui se passe avec la Russie. Et Chérichev qui joue 2 matchs sans se blesser, pardon, mais il y a quand même, c'est bizarre, c'est bizarre.
Et en étant bon sur les deux.
Ah ouais, brillant, brillant. Mais c'est
Très
marrant
bon
parce que,
même.
alors justement, il y a un article de Benjamin Grossier qui est sorti aujourd'hui sur Chérichev, qui est plus espagnol que russe au final. Ça veut dire pas écouter sa place dans les 23 avec la Zbornaïa. Et oui, qui un peu, je sais pas si ça va être un one month wonder comme on dit généralement dans les grandes compétitions. Mais qui donne un peu un aperçu de ce qu'il est capable de faire et qui malheureusement il n'est pas assez en aptitude de réaliser à Villarreal parce qu'il se blesse régulièrement. À Valencia, j'ai un très bon souvenir de lui, par exemple. C'est un gars qui donne tout, qui a beaucoup de ballons, mais qui a tendance un peu à se perdre. Voilà. Et là, c'est quand même réjouissant de voir un joueur de Liga comme ça, parce qu'on aime. Je pense que globalement, on aime bien Chérichev le voir jouer. Et donc, c'est quand même satisfaisant de voir que. Un coup du sort, la blessure de Zagoyev lui a permis de rentrer dans le 11 et de briller. Donc, super nouvelle pour le foot espagnol et pour lui surtout. Voilà. Donc, son père,
Exactement.
par exemple, son père était joueur à Gijón, voilà, qui n'est pas Valladolid, je le rappelle, qui est monté en Liga. Voilà. C'est marrant parce que le papier de Ben m'a fait repartir il y a plus de 20 ans en arrière avec Nikiforov. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le football russe, voilà, Nikiforov, c'était un nom assez important à l'époque. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast. On a prolongé d'un quart d'heure. Voilà, on s'est fait plaisir. Enfin,
Oui.
c'était finalement il y a pas mal de choses à analyser de ce petit 1-0 qui qualifie l'Espagne pour les 8e, qui va faire rebaisser la pression. Donc, j'ai Chloé, je vous remercie d'avoir été avec moi à ces heures tardives après ce
Avec plaisir, avec
ouais.
plaisir. Ouais.
Merci à toi.
On va se
Comme
retrouver.
je voulais juste dire un petit truc. C'est
On t'en prie.
que, libre parole, c'est que ce soir, avec Derea qui me fait quand même très peur, un petit peu flippée, je suis pas rassurée, Je voulais juste dire à quel point Iker Casillas me manque dans cette équipe d'Espagne.
Ce sera coupé,
voilà.
ce sera coupé au montage.
Ça ne sera pas coupé.
Ce sera
C'était
coupé
le
au
petit
montage.
Mot de
oh
la
là
fin.
Là. Oh là là. Tu vois, j'allais te dire reviens quand tu veux, mais là, quand tu sors, c'est pareil.
Et
oh là là. Non, bah, non, mais c'est vrai qu'en termes de leadership, il y a un problème avec Détréa. Après, je pense que. Bon. Il est brûlé, l'ami Casillas.
Ah, mais je dis pas
le
contraire, c'est juste que
ans.
L'époque Ika me manque énormément. D'avoir un gardien rassurant et où tu flippes pas quand il était à son meilleur niveau.
Alors, comme on est au dédicace, moi je vais faire pareil, hein, je vais dire Paco Bouillot, s'il te plaît, reviens. tu me manques.
Oui.
Bon, allez, je vais contacter G-Fool pour la libre antenne à Skyrock. Personne histoire de collégien, d'amour au collège, un truc comme ça.
Arrête, commence pas.
on est là en direct tout de suite. Tout de suite, on va passer dans le soprano. Bon, blague à part. Oui, je sais, c'est pourquoi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On termine un peu chaotiquement ce podcast et les mercredis. Après la tension de ces 90 minutes, vous pouvez nous retrouver sur folialiga.fr, sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, sur Discord, vous pouvez voir notre boutique. On a des nouveaux t-shirts qui vont arriver de la main de Gepincho.
Oui.
Il m'a envoyé une merveille hier soir. Ça va beaucoup plaire à tous les esthètes du football. Voilà, je dis juste ça. Pour retrouver pouce bleu, évidemment, vos commentaires pour des sujets de vidéos, d'articles sur Foya Liga. On sera un plaisir d'y répondre et de les écrire. Merci à tous. On va se retrouver, j'espère, pour le prochain match de la Rioja contre le Mallorca avec, j'espère, des invités de qualité. J'ai 2-3 idées, ça devrait vous plaire. Parler de foot maghrébin. Allez, hasta luego. Ciao. Adeo.
Salut.